19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, bonsoir. Vous savez que c'est un plaisir. On est mardi, tranquillement, nous sommes ensemble. Certains sont en vacances, je leur souhaite de passer d'excellentes vacances. D'autres sont en train de travailler rudement et ils ont bien raison. En tout cas, on leur souhaite bon courage. Au menu, au sommaire, les amis, on reviendra sur la séquence Zemmour à Drancy. Ça continue de faire parler avec la femme voilée qui aujourd'hui est menacée de mort. Nous en parlerons. Vous avez été extrêmement nombreux hier au 01 53 48 3000. Vous allez l'être de nouveau ce soir au 01 53 48 3000. Second sujet, que faire? Quels sont les liens qu'on doit construire? Le pont doit-il exister encore entre les policiers qui ont été pris pour cible lors d'une fusillade? Ça se passait sur la ville de Lyon. Nous tenterons de comprendre que s'est-il passé. Et ensuite, nous nous intéressons justement à une association fondée par notre invité qui va être dans une poignée de minutes avec nous. Eh bien, ça s'appelle Chez nous. Et tout à l'heure à 19h30, eh bien, c'est le Quoi de Neuf avec Faïza Ben Mohamed, à qui on souhaite la bienvenue, qui nous parlera du harcèlement scolaire. Les informés, eh bien, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité actu.
Les informés, l'interview.
Et nous accueillons Camélia Barbachi, bonjour.
Bonjour Adil, merci beaucoup pour l'invitation.
Eh bien écoutez, c'est avec plaisir, nous avons échangé et puis vous allez nous parler. Vous savez quoi, vous êtes la fondatrice justement de Chez nous. Chez nous, ça veut dire quoi? Alors d'abord, précisons que vous êtes au nord de la France.
Tout à fait, oui. Donc j'ai 24 ans, du nord de la France et je suis d'origine tunisienne.
Vous êtes d'origine tunisienne, Camélia Barbachi justement. J'ai mon influenceur. Il est content parce que évidemment vous êtes sa compatriote. Alors il est tout content, notre ami. Ça va là? Vous êtes
très bien. Très bien, très bien.
Vous voulez la saluer?
Ah bah bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. Bah je vous salue et c'est un plaisir.
Vous allez parler au président de la coopération France-Tunisie. Hein. Attention, il va débattre tout à l'heure. C'est Rayed Chaibi, vous connaissez?
Non,
bah,
je t'avoue que je connais pas, mais enchanté Ryan.
Bah, enchanté, et ça me fait plaisir de...
C'est pas Ryan, c'est Rayed.
C'est pas grave, de la part d'une compatriote, j'accepte tout.
Bon, Camélia, nous allons parler de vous, Camélia. Alors, Camélia Barbachi, vous avez créé quelque chose qui s'appelle Chez nous, justement, entre la Tunisie et le nord de la France. Quelque chose qui a du sens et de l'éthique. Parlez-nous-en, justement. Chez nous, c'est quoi?
Alors, Chez nous, c'est une marque de prêt-à-porter dont la mission est de célébrer le multiculturalisme et plus largement la diversité humaine à travers des pièces qui sont conçues de façon éthique, justement, entre le nord de la France et la Tunisie.
Vous êtes à Roubaix, vous, hein?
Moi, je suis à Lille, mais je suis née à Roubaix.
D'accord. Alors, c'était quoi l'idée, justement, de créer ce pont entre le nord de la France et la Tunisie? Pour quelle raison? Parce que j'ai vu, par exemple, vous aviez sur Ulule créé toute une collection de prêt-à-porter éthique et inclusive. C'est pas mal, hein, je dois dire, hein, je reconnais. J'invite nos auditeurs à aller regarder ça. C'est Ulule, chez nous. Vous tapez ça, évidemment, sur Internet. Comment ça s'est passé? Dites-moi, ça n'a pas été compliqué pour vous, justement, de préparer chez nous toute une série de prêt-à-porter?
Alors, Chez nous est né du coup il y a un an.
Oui.
En fait, à travers ma thèse destinée, j'ai étudié les effets néfastes de la fast fashion et en parallèle, je travaillais au sein du département produits d'une marque internationale. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu le déclic. J'ai toujours eu une sensibilité pour la mode, mais disons que au fur et à mesure du temps, je me suis un peu éloignée de salaire en me rendant compte des conséquences de l'industrie de la mode. Et à la fois, je ne me sentais pas représentée par cette industrie et par la sphère publique de façon générale. Et donc, j'ai voulu créer une alternative. Et c'est comme ça qu'est née chez nous. Du coup, une marque qui à la fois représenterait les minorités et qui prendrait en compte les dimensions environnementales et sociales de la fabrication des produits. Et justement, je voulais faire un clin d'œil à mes origines tunisiennes à travers une collection qui est inspirée dans l'héritage
tunisien. Vous avez raison, Camélia Barbachi. Justement, la particularité de votre prêt-à-porter inclusif et éthique, c'est que il y a une représentation de toutes les minorités. Il y a évidemment des personnes portant le foulard, une morphologie très différente. Pour quelle raison vous avez fait ce choix?
Eh ben, je trouve que dans le paysage de la mode actuelle, c'est encore très très homogène. Donc en termes effectivement de morphologie, mais aussi d'origine, c'est encore très homogène. Et donc du coup, j'ai voulu créer une marque qui représenterait les vraies personnes telles qu'elles sont. Et du coup, c'était très important pour moi de mettre en lumière les minorités. Et du coup, je propose des pièces qui sont non-genrées et qui permettent à toutes les personnes de les porter sans restriction de genre. Et on voit chez nous, donc, des vraies personnes.
Et comment alors on a compris le pont que vous avez créé, mais alors comment ça se passe entre la Tunisie et le nord de la France? C'est justement ce pont se traduit comment?
Alors du coup, je travaille avec trois ateliers. Il y en a deux qui sont situés dans le nord de la France. Il y a un atelier d'insertion professionnelle, donc ça permet à des personnes qui relèvent des dispositifs d'insertion,
oui,
comme par exemple des migrants ou des jeunes déscolarisés ou des femmes isolées, d'accéder à un cadre et un accompagnement qui va leur permettre d'être mis dans les conditions réelles du marché à travers l'emploi. Et à côté de ça, je travaille avec un atelier qui est situé en Tunisie, avec Sarah El Al, un atelier qui est certifié GOAT, donc la certification la plus stricte de l'industrie, qui garantit du coup non seulement des conditions de travail et un salaire juste, mais aussi le respect de l'environnement,
donc,
à travers par exemple l'interdiction de substances toxiques ou la gestion des déchets.
Donc Camélia Barbachi, j'ai bien compris qu'il y a un cahier des charges, un engagement aussi de votre part.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Oui, mais ce cahier des charges, vous y prêtez évidemment une attention minutieuse concernant, y compris en Tunisie par exemple. Vous vous êtes rendu sur place, vous avez vous-même fait les choix, les sélections?
Alors malheureusement, avec les restrictions des voyages récentes, j'ai pas pu encore me rendre en Tunisie, mais j'y vais là début novembre pour le début de la production. Mais par contre, les certifications me permettent en fait de m'assurer que les ateliers respectent le cahier des charges GOAT, qui est en fait le plus strict qui existe actuellement dans l'industrie textile.
J'ai vu que, évidemment, vous respectez l'engagement, y compris environnemental. Vous y tenez? Pourquoi? Parce que c'est l'avenir? Pour quelle raison? Vous êtes jeune de 24 ans, vous êtes déjà sensible à cette question?
Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont très sensibles à la dimension environnementale. Et du coup, j'ai décidé de travailler avec des matières à faible impact et des pratiques vertueuses qui vont justement aller en ce sens.
J'ai vu aussi que, évidemment, vous vous inspirez de vos racines tunisiennes.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a inspiré? Vos grands-parents, votre entourage, justement cette identité, vous l'avez, cette identité éclectique d'ailleurs, vous en êtes inspiré où précisément? Camélia Barbachi.
Effectivement, j'ai vraiment voulu insuffler mon héritage tunisien à l'ADN chez nous, et on retrouve des références à la Tunisie à travers chaque étape de la vie du produit, lors du processus créatif. Par exemple, je m'inspire beaucoup de mes souvenirs en Tunisie et du mode de vie tunisien, effectivement, avec mes grands-parents. La pièce phare, la première collection, elle est inspirée d'un vêtement traditionnel djerbien que mon grand-père a l'habitude de porter, par exemple.
Mmh.
Et du coup, voilà, je puise dans les racines pour proposer quelque chose d'éclectique et qui fait effectivement le pont entre mes origines tunisiennes et puis mon identité française.
Vous vous adressez aussi à la diaspora tunisienne en France?
Oui, tout à fait. Je pense que la diaspora tunisienne se reconnaîtra dans ce mélange éclectique où on retrouve finalement des pièces qui nous rappellent là-bas, mais qui sont très contemporaines. Très européenne.
Camélia Barbachi, pourquoi chez nous?
Alors chez nous, c'est une expression, peut-être que Rayed la connaît, c'est une expression qui est utilisée par les Tunisiens pour nous désigner, nous, binationaux, parce que quand on est...
Vous confirmez?
Oui. Je confirme en tout point.
On vit chez nous là-bas, donc en France, et du coup... Ça hérite un peu les Tunisiens et donc ils nous appellent les chenilles là-bas. Et du coup, je trouvais que c'était
une histoire. Et ça le fait marrer, notre ami Rayed Chaibi. Justement, alors, comment vous comptez vous y prendre? Parce que j'imagine, comment vous faites financer tout cela, Camélia Barbachi? Ça doit être compliqué, c'est facile? Vous avez fait appel à des sponsors? Comment ça se passe?
Alors justement, je conduis actuellement une campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule, où ma première collection est disponible en précommande. Donc, il reste 9 jours si les auditeurs souhaitent me soutenir. Et donc, je fais appel aux personnes qui seront sensibles à ce projet. Et elles peuvent m'aider à financer mon projet.
Les amis auditeurs, voilà, si vous voulez soutenir Camélia Barbachi, ça se passe où alors? Ulule.
Ouais.
Chez nous.
C'est ça.
Voilà. Et quelle que soit la contribution d'ailleurs.
Oui, tout à fait, oui. Donc ça peut être une contrepartie, donc où les personnes reçoivent un des articles de la collection, hein, ou plusieurs. Et ça peut être aussi un don libre, hein, des 1 euro.
Bon. Et donc vous lancez cet appel aux auditeurs. Tout cela vous permettra de renforcer votre projet, Camélia, éthique et inclusif.
Ça va permettre de lancer la production de la première collection, mais aussi le développement des suivantes, et ça participera aussi à la communication.
Rappelons que c'est complètement engagé, votre histoire. Hein.
Oui, c'est complètement engagé.
Oui, et comment vous comptez le traduire, justement, cet engagement?
Eh bien, comme on le disait, cet engagement, il se traduit par la conception qui est éthique et aussi par la mise en lumière des minorités qui sont souvent invisibilisées.
Exact.
Non seulement dans l'industrie, mais aussi dans la société.
Bonne chance, Camélia. Vous avez l'air déterminée. Merci à 24 ans. C'est bien, hein, 24 ans, Ryan Chaibi, non? Qu'est-ce que vous lui souhaitez?
D'abord, évidemment, je lui souhaite plein succès, et d'autant plus que... Je trouve que elle est le symbole de ce que sont les TRE,
oui.
Mais pas dans le sens administratif du terme, puisque les TRE, Camélia le sait très bien, je pense, ça veut dire Tunisien résident de l'étranger. Je pense que Camélia, elle est ce que moi j'appelle TRE dans le sens tunisienne et tunisien richesse de l'étranger, même si elle est franco-tunisienne. Et donc je souscris et je soutiens totalement cet appel à soutenir ce qu'elle fait, parce que ça à la fois ça met en exergue le savoir-faire, bien sûr, de l'artisanat tunisien, qui est quand même reconnu, et puis une volonté également de promouvoir l'insertion professionnelle.
Oui, c'est vrai. Je pense
que on aura le débat dans quelques instants, mais ça donne à réfléchir sur certaines bêtises qu'on peut entendre. Voilà.
Eh bien, on le souhaite bon
courage. Bravo en tout cas.
Camélia, bon vent pour votre histoire chez nous. Et l'annonce est faite, donc Ulule chez nous, tout simplement.
Merci beaucoup, Adil.
Allez, à très bientôt, Camélia Barbachi, qui nous vient du nord, de Lille précisément. Tenez-nous au courant. Hein.
Oui, absolument.
19h13, nous allons nous retrouver justement, juste après la pub, avec les sujets d'actualité. Je vous attends parce que la femme a été menacée de mort. Avant de retrouver nos débatteurs 0153 48 3000, c'est le numéro qui vous attend tout de suite, maintenant. Elle s'appelle Rachida. Rachida, justement, qui a été face à la séquence sur Drancy avec Éric Zemmour, après la polémique déclenchée par Face à la rue, où elle enlève son voile face à Éric Zemmour dans les rues de Drancy. Eh bien, Rachida est revenue sur cette séquence auprès de Cyril Hanouna, d'En touche pas à mon poste, et aujourd'hui, elle le dit officiellement, qu'elle est menacée de mort. Alors, parlons-en, justement. 0153 48 3000, je vous attends partout en France, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkad.
19h17, 0153 48 3000, c'est parti, le standard est ouvert.
01 53 48 3000. Les Informés vous donnent la parole.
Alors tout de suite, vous le savez, j'ouvre l'antenne. Il est, vous entendre partout en France, justement. Avant d'accueillir Anan de Créteil, Karim du 78, Nadir Kaya, bonjour, le président de Banlieue Plus, comment ça va?
Ça va, Nadil, et toi?
Vous étiez à Drancy.
Tout à fait.
Vous vous êtes fait remarquer parce que tout le monde vous a vu. J'ai reçu des SMS comme quoi vous étiez à Drancy.
Pourquoi
Morandini ne vous a pas donné la parole?
Parce que son émission était préparée, il avait déjà des invités de prévu.
On va en parler parce que vous avez vécu les coulisses, vous. Voilà, vous avez vu des choses. Je voudrais qu'on en parle tout à l'heure. Un habitant de Drancy, même un élu, justement.
Un ex-élu.
Rayed Chaibi, bonjour.
Bonsoir.
Le président de l'association de la coopération France-Tunisie. Vous êtes de Drancy.
Tout à fait.
Et vous êtes choqué par ce qui s'est passé.
C'est moins compliqué. Et assez révolté. Oui.
Révolté. La maire a réagi d'ailleurs.
Tout à fait.
Elle a dit du cinéma.
Oui, elle a même parlé de cirque médiatique.
Cirque médiatique. Elle a parlé de cirque médiatique.
Oui, mais je crois qu'elle était invitée, elle a refusé l'invitation. Donc c'est un peu dommage.
Alors, tout de suite, vous savez quoi ? Le standard 01 53 48 3000. Anan de Créteil, bonjour Anan, bonsoir.
Allô ?
Bonsoir Anan, bienvenue.
Oui, bonsoir, comment allez-vous ?
Mais très bien, très très bien, je vous écoute.
Eh bien, je suis choquée par tout ce qui se passe autour du retrait du voile de cette dame. En fait, on crée une polémique pour rien du tout. Elle a décidé de le faire en toute conscience. Et puis derrière, carrément menacée de mort. Cela démontre concrètement que la France est, comment dirais-je, est frustrée. Ça y est.
Elle est frustrée, la France, ça y est. On va trouver la séquence. Yanis, quel réalisateur. Il va me trouver la séquence. Attends, Yanis. La séquence sur C8, chez Cyril Hanouna. On la trouve, elle est partout, justement. Ouais. Pourquoi vous dites que ça y est, qu'est-ce qui fait que
Éric Zemmour, et j'espère qu'il n'a pas gagné, mais ce monsieur a répondu.
La séquence sur C8 avec Cyril Hanouna, justement.
Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Et le fait qu'elle ait dit qu'elle est menacée de mort, c'est vraiment du...
Elle a dit, j'ai reçu beaucoup de menaces de mort.
Mais c'est débile.
Mais moi, c'est débile. Excusez-moi, mais je comprends pas.
C'est choquant.
Elle fait ce qu'elle veut, cette dame.
Franchement, la pauvre, aujourd'hui, elle se...
Allez-y. Attendez, Nadir veut... Attendez, Nadir. Anan, Nadir veut vous interpeller.
J'ai l'impression que vous découvrez la France et les réseaux sociaux. Il y a rien de nouveau. Non, je dis ça, c'est pas méchant parce que... Même moi qui ai l'habitude un petit peu
de faire certains médias.
Moi j'ai eu l'info vendredi de la présence de Monsieur Morandini. Donc je me suis dit tiens comme il nous invite pas trop
mais
dans les médias.
C'est normal que l'émission soit préparée.
Oui c'est normal qu'elle soit préparée au minimum. Oui. Mais là dès l'instant où lui il diffuse l'information en disant que cette émission est nouvelle dans sa conception et qui va au contact des gens. J'ai une chance et puis d'autres ont peut-être la chance aussi d'intervenir et de dire concrètement ce qu'ils pensent de Zemmour parce que Zemmour parle de nous, c'est-à-dire des banlieues des musulmans depuis 10, 15, 20 ans.
Sans qu'on puisse avoir de la contradiction. Il a échangé avec Jean-Marc Morandini, l'animateur.
Tout à fait, mais moi
Nadir Kaya. Mais il va nous dire.
Spectacle en fait.
Oui, bien sûr. Mais faut pas être naïf.
C'est de la politique spectacle.
Bon, Nanan, vous condamnez quand même les menaces. Arrêtons de juger les menaces de mort. Non, on est d'accord, Nanan.
Bien évidemment. Non, mais on va pas menacer une dame parce qu'elle a retiré son voile.
Vous êtes jeune, vous avez quel âge?
Moi, j'ai 40 ans.
40 ans, vous êtes jeune. Effectivement. Super jeune. Anan, ne lâchez rien. Merci à vous.
Mais bien évidemment, je ne lâche rien. Je vous écoute tous les soirs.
Ah c'est ma devise, on ne lâche rien.
Une fan.
On l'a créé, c'est ça. Mais ils sont nombreux. Hein. On va créer un club de on ne lâche rien, vous savez.
Non, mais mine de rien, c'est une radio où vous accueillez tout le monde. C'est ça la différence.
Vous savez, Anan, vous me donnez une idée. Comme tout le monde me dit. Vous savez, tout le monde m'interpelle sur on ne lâche rien. J'ai les politiques qui m'envoient des. Je vous jure, c'est vrai. Ils me disent, quand ils finissent leur phrase, on ne lâche rien.
J'ai
des artistes qui me disent, on ne lâche rien. Alors, on va monter un collectif, on ne lâche rien.
On ne lâche rien.
Voilà le club. Voilà. Merci, Anan.
Avant
d'accueillir justement Karim du 78, je voudrais vous replonger dans la séquence hier chez Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, il va venir ici. Hein. Moi, il m'a dit oui. Hein. Je suis passé par Jean Rachid, que je salue chaleureusement. Jean Rachid, qui est cinéaste, producteur de cinéma, producteur de Grand Corps Malade. J'ai grandi avec lui. On a grandi ensemble, hein, même quartier. Hein. Aïe, qu'est-ce que tu crois ? Et Jean Rachid, il m'a connecté avec Cyril Hanouna. Cyril Hanouna m'a dit, je suis chaud pour venir à Beurre FM.
On l'attend avec impatience.
Donc, il va venir ici, je vous le dis, et on parlera avec lui. J'ouvrirai l'antenne et vous échangerez. Justement, Cyril Hanouna, si vous nous entendez, s'il nous écoute, on l'embrasse. Voici la séquence avec Rachida. Écoutez.
Portez le voile depuis quelque temps, puisque certains sont allés sur votre compte Facebook et ont vu que vous ne portiez pas le voile. Alors, vous le portez depuis 9 mois, c'est ce qu'a dit Jean-Marc Mandine.
Depuis le début de l'année, quoi, tout cassé.
D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous le portez ?
C'est une question de foi, mais... comme je l'ai dit. J'essaie de m'y retrouver dans ma foi et je commence petit à petit.
Mais pourquoi vous avez pris la décision comme ça depuis quelque temps ? Vous avez dit, j'ai envie de porter le voile, c'est le moment ?
C'est un cheminement.
Oui.
Tout à fait. Donc c'est un cheminement vers ma religion. Après, je ne parle pas au nom de tous les musulmans. Il faut vraiment arrêter. Là, c'est chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait vraiment ce qu'il veut. On a vraiment le choix. D'accord. On a le choix de le porter. Mais non, parce qu'on a le choix d'avoir
la polémique, je vous dis tout, c'est que il y a des gens qui ont dit oui, non, mais en fait, elle portait pas le voile il y a encore une heure et elle le porte maintenant quand il y a Zemmour. Donc il faut dire que vous le portez depuis 9 mois.
Non, je le porte depuis 9 mois.
D'accord.
Et j'espère le porter encore le plus longtemps possible.
Voilà. Vous êtes plus heureuse avec le voile que sans le voile?
Je suis très heureuse, mais j'étais très heureuse aussi avant.
D'accord.
Auparavant, je
travaillais. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, forcément, je vous dis,
qui ont fait
la mise en scène, qui se sont dit, tiens, elle portait pas le voile avant, on a été voir sur son compte Facebook, elle portait pas le voile et maintenant elle le porte, peut-être qu'elle a été.
Donc le compte Facebook raconte toute ma vie, il y a quatre photos.
Mais je vous dis, voilà, je vous dis
ce qui est.
Ce qui est sorti. Exactement, mais elle le porte depuis 9 mois, donc voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, Gilles Verdet.
Oui, c'est vrai que. En regardant vos réseaux sociaux et en discutant avec des amis musulmans, notamment de Drancy, certains remettent en cause vos convictions. Et ma question, elle est directe. Mmh. Est-ce que vous êtes une comédienne?
Ah non, du tout. Ah non, non.
C'est ce qui est venu.
Elle est comptable.
Je suis comptable. Effectivement, j'ai travaillé pour un certain groupe.
Comédien, c'est de l'embout, ça, à côté. Non, mais alors justement, on va revenir là-dessus.
Oui. Voilà.
Parce que la deuxième polémique... Voilà, donc c'est aussi que vous avez travaillé. Les gens ont dit que vous travaillez pour le groupe Bolloré, qui est l'actionnaire principal du groupe Canal+. Et on rappelle que CNews, donc c'est une chaîne du groupe Canal.
Aussi.
Et on a été vérifié et vous ne travaillez plus pour le groupe Bolloré.
Non, je ne travaille plus.
Depuis maintenant, combien de temps?
Depuis fin 2017.
Exactement, depuis fin 2017, depuis presque maintenant 5 ans.
Ouais.
Vous ne travaillez plus pour le groupe Bolloré, vous travaillez où maintenant?
Pour le groupe Invivo.
Exactement, pour le groupe Invivo. Voilà, c'est bien ce qu'on a vérifié, puisqu'on a, on a tout vérifié, je vous cache pas.
Depuis le 3 janvier 2018, exactement.
Exactement.
Je suis partie de chez Bolloré et j'ai tout de suite enchaîné.
C'était la séquence, volontairement j'ai voulu la laisser jusqu'au bout. Et aujourd'hui, depuis cette séquence, face à Cyril Hanouna, n'en touche pas à mon poste, eh bien elle a reçu beaucoup de menaces de mort. 01 53 48 3000, je vous attends. Karim de 78, bonjour Karim. Karim, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Quelle ville du 78?
Saint-Rémy-du-Chevreuse.
Bienvenue. On vous écoute, Karim. Alors, dites-nous tout.
Moi, j'ai une petite question à poser par rapport à la laïcité.
Oui.
Alors, moi, demain, ce monsieur Zemmour, il va devenir président.
Oui.
Il annonce qu'il est juif pratiquant. Est-ce qu'il va jurer sur le Torah? Est-ce qu'il va jurer sur la Bible?
Oui, c'est une question qui peut se poser. Vous faites référence, j'imagine, à Trump, c'est ça, aux États-Unis?
Voilà, même en France, quand quelqu'un de bien entendu arrive, il va jurer sur la Bible, alors qu'ils disent que les lois de la République sont au-dessus de tout. Alors, il faut jurer sur une Bible.
Bon. Mais écoutez, c'est une question que vous posez. Merci, Karim.
Merci à vous, au revoir.
Tiens, direction Rueil-Malmaison. On va accueillir Rafik. Après, je vous donne la parole, messieurs. Parce que je voudrais vous entendre aussi, 01 53 48 3000. Rafik, bonsoir.
Oui, bonsoir Adil, merci de me prendre à l'antenne.
Bienvenue.
Je voulais juste commencer rapidement, parce que je voulais appeler hier, mais comme vous avez insulté fou, impossible de vous joindre.
C'était donc, impossible hier, non, le standard, vous savez quoi, il a sauté. Voilà, je vous dis tout.
C'est gentil à vous, c'est gentil à vous, et je tiens à saluer la qualité de vos interventions.
Merci.
Donc, je voulais juste dire que, historiquement, c'est pas la première personne qui essaye d'enlever le voile à d'autres personnes. Donc, le président Habib Bourguiba a fait la même chose en Tunisie, et qu'il y a eu d'autres conséquences. Mais bon, c'est pas
le cas. Il va pas être content. On a un Tunisien chez nous ici, vous savez. C'est un débatteur, c'est un influenceur, c'est Rayed Chaibi.
Je suis bien aussi, je le suis bien sur.
Vous le suivez, vous le suivez.
Donc juste pour finir, il faut pas tomber dans le piège du harcèlement. Hier, je voulais intervenir sur le harcèlement, et il faudrait pas que la dame à la fin subisse un harcèlement qui est négatif.
C'est vrai. Vous avez raison, Rafik.
Donc dans le sens où.
Mais c'est déjà le cas. Ça y est, c'est trop tard. Elle subit le harcèlement. Elle est même, c'est au-dessus du harcèlement, des menaces de mort.
Tout à fait. Et ça, c'est vraiment dangereux. Donc, il faut condamner cela. Et il faut essayer de lutter contre l'harcèlement. Parce que ça serait vraiment très, très bien de refaire une émission sur l'harcèlement scolaire. Chose que l'ensemble des élus doivent vraiment travailler sur ce sujet-là, qui prend vraiment de l'ampleur et qui devient vraiment un sujet très, 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 très sensible. Voilà tout. Donc,
merci, Rafik.
À vous et à bientôt.
Merci à vous et de votre fidélité. Restez fidèles. Merci en tout cas à tous celles et ceux qui sont nombreux. Moi, je sais, on ne lâche rien. Vous avez vu, c'est bien. Moi, non, mais c'est ça, exactement. On ne lâche rien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans Les Informés. Et je dois dire que cela nous encourage. Merci de votre fidélité et soyez encore plus nombreux. Voilà, soit de Toulouse. Et ensuite, je vais m'attaquer à nos débatteurs influenceurs. Parce qu'il y en a un aussi qui lâche rien. Il s'appelle Nadir Kaya. Alors lui, il lâche vraiment rien, Nadir. C'est ça.
On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On fait ça,
ça
pour.
Ça fait 40 ans que vous lâchez rien, vous. Hein.
Bah, depuis, comme beaucoup dans les quartiers populaires et en France de façon générale. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe, l'évolution de la société et tout ce qui se passe par rapport au phénomène Zemmour, et en fin de compte, on voit qu'on traite des sujets de surface, mais pas le fond des problèmes. Ouais. C'est violent, mais bon, après, moi, tu le sais, Adil, moi, j'en veux aussi un petit peu aux citoyens des quartiers populaires, parce que ceux qui ne connaissent pas, les quartiers populaires, qu'ils aient des réactions, des clichés, des préjugés, je peux le comprendre. Mais à un moment donné, il faut que les habitants des quartiers populaires prennent part au combat, parce que c'est un vrai combat qu'il y a aujourd'hui à mener. C'est pas simplement le fait de dire, comme certains peuvent le dire, il faut aller voter. Voter, ça ne suffit pas. Il faut s'impliquer au quotidien, en permanence, tant sur l'éducation de nos enfants,
mais vous le dites,
sur
ça,
le suivi,
ça va avoir un impact
face aux politiques. Qu'ils soient bonnes ou mauvaises, il faut être présent, c'est ça être citoyen. Alors après, je vais revenir sur la communauté musulmane et sur le fait de ce que j'entends depuis hier, et notamment sur les critiques et les menaces qui sont aussi, malheureusement, qui viennent de la part de certains musulmans, parce qu'il faut faire attention, il y a des comptes qui se présentent comme des comptes de maghrébins ou de musulmans et qui insultent, ça c'est la fachosphère qui fait ça, mais il y a aussi des musulmans qui prennent part à ce type d'harcèlement en tenant des positions qui, à mon sens, sont honteux pour un musulman, parce que notre religion, c'est une religion de clémence, de bienveillance, de savoir, de connaissance, d'humilité.
Donc, Souad ne mérite pas les menaces de mort.
Mais bien sûr que non. On peut critiquer, on peut la critiquer sur son geste. Mais même la critiquer, il y a.
C'est une victime collatérale.
Voilà, ouais. Il faut savoir la critiquer dans le bon sens.
Ouais. Souad de Toulouse, bonjour Souad. Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Mais très bien, Souad. Mais moi, je vais très très bien, je vous remercie infiniment. Il est 19h30, Souad. Restez bien, bien avec nous. Je vais vous passer juste après le Quoi de Neuf, tout de suite, maintenant, sans tarder. C'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est avec Faïza, toute nouvelle, fraîchement arrivée, dans les informés sur Beurre FM. Faïza Ben Mohamed, bonjour.
Bonjour Adil, bonjour toute l'équipe.
Ravi que vous soyez là avec votre billet d'humeur, carte blanche, comme chaque mardi, 19h30, c'est parti. Et vous avez décidé de parler du harcèlement scolaire. On vous écoute.
Tout à fait. Alors, j'ai choisi ce sujet du harcèlement scolaire et on va encore revenir à Cyril Hanouna, hein, puisque la séquence hier, elle a fait, je crois, pleurer un peu tous les téléspectateurs. Parce que il a reçu les parents de la petite Dina qui s'est, vous savez, suicidée le début octobre après avoir été harcelée par ses camarades scolaires. Et en fait, j'ai l'impression que sur la question du harcèlement, on a toujours tendance à croire que ça ne concerne que les autres, que ne peuvent être harcelés que les autres, qu'on n'est pas nous concernés. Qu'on voit la chose un petit peu de loin, alors même qu'on peut être non seulement parents de pour ceux qui ont des enfants de harceleurs et comme de harcelés. Et je crois que dans un rapport parlementaire qui explique que sont potentiellement harcelés chaque année plus de 700 000 enfants. Donc on est tous concernés. 700 000 enfants, c'est énorme. Et je voulais vraiment attirer l'attention de tout le monde là-dessus parce que c'est facile d'avoir des procédures, d'avoir des grands discours politiques qui prétendent prendre à bras le corps le projet, le sujet, pardon, quand en réalité, les parents de cette petite fille, ils ont alerté, ils ont respecté les procédures, ils ont interpellé les responsables scolaires, ils ont interpellé le proviseur, la CPE, et il ne s'est rien passé. Donc après, c'est là que je voulais vraiment, si j'ai un message à faire passer dans ce Quoi de Neuf de ce soir, cette carte blanche que vous me laissez à Lille, c'est au-delà de faire attention au fait que nos enfants ne soient pas harcelés, d'essayer de s'intéresser, de voir ce qui ne va pas, ce qui ne va pas aller, intéressez-vous beaucoup à savoir aussi si vos enfants ne sont pas les harceleurs.
Vous avez raison.
Parce que des fois, on croit qu'on les éduque correctement, on pense tout faire, et on se rend compte un jour que finalement, nos enfants, sur Internet, participent à des raids numériques, participent sur les réseaux sociaux à harceler leurs camarades, à se moquer. Des fois, ils pensent que c'est anodin, et ça ne l'est pas. Et c'est vraiment l'enjeu d'éducation, parce que les réseaux sociaux font un ravage dans les jeunes générations.
Dans les mœurs.
Et chacun doit prendre sa part.
Vous avez raison, Faïza Ben Mohamed, de nous le rappeler, et vous avez raison de souligner qu'il faut regarder devant, évidemment, nos portes, c'est-à-dire nos enfants, parce que parfois, il y a des choses qui nous échappent. excellent billet d'humeur, je vous l'accorde, pour cette première. Et on vous retrouve mardi prochain avec autant de plaisir, Faïza Ben Mohamed.
Avec plaisir, à mardi prochain.
Journaliste et militante notamment, on ne lâche rien, ma chère Faïza Ben Mohamed. À bientôt, à mardi prochain. Tiens, 01 53 48 3000, et après je retrouve le face-à-face avec Rayed et Nadir. Souad, je vous reprends, je vous récupère, Souad de Toulouse. Bonsoir, rebonsoir, rebonsoir, Souad.
Oui, rebonsoir.
Je vous écoute, ma chère Souad.
Alors, je voudrais tout simplement parler au sujet de Madame Rachida,
oui,
qui a osé ôter son voile devant Gémeaux.
Oui.
Oui, c'est choquant, je le dis moi-même.
Non, mais dites-le, en toute liberté, donc, moi, j'ai pas de problème.
Je suis là pour évoquer ce sujet, car je pense qu'actuellement, avec la polémique de Zemmour, qui est lourd à porter pour beaucoup de gens, je dis bien, pour les immigrés, les sans-papiers, pour tous les musulmans, d'accord,
oui.
Nous sommes, on va dire, sur la planète, plus de 67 pays concernés, d'accord. Alors, ce que je veux dire tout simplement, c'est que cette dame n'a pas dû respecter déjà le Coran. Je pense qu'elle l'a profané, je le dis bien, haut et court. Je pense aussi qu'elle n'a pas respecté dans cette religion qui est une religion...
Et pourquoi, Souad, j'entends ce que vous dites, Souad. J'entends.
Je dis tout simplement que cette dame s'est donnée en spectacle dans des mots. Vous savez, quand on dit à une personne, enlevez votre cravate, si vous enlevez votre cravate, et ben, je vais enlever...
Sauf que la cravate n'est pas un signe religieux. Il l'a dit d'ailleurs,
non,
il l'a dit.
Non, c'est le problème n'est pas... L'histoire du titu, hein. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'elle s'est donnée en spectacle.
Ouais. Vous êtes en colère, Souad.
Non, je suis pas en colère. Je pense que, franchement...
Un peu dans l'émotion, peut-être.
Non, je pense qu'elle a manqué de respect envers la religion.
Ouais. Et vous êtes toute seule à Toulouse à penser ça ? Vous êtes toute seule à Toulouse à penser ça ou vous en avez parlé avec vos copines ?
Franchement, je suis tout seul sur ce sujet-là, puisque c'est récent. Moi, je l'ai vu hier, hein, voyez-vous la vidéo. Donc, si vous voulez, ça m'a interpellée. Bon. Et je ne suis pas en colère. Je me dis que j'ai honte pour elle. Franchement, je le dis, j'ai honte pour elle. Et il ne faut pas s'étonner.
Bon. Alors, Souad,
le message.
Vous avez.
Elle a jeté une bulle sur le feu. Et je pense.
Souad.
Oui, mais elle aura d'autres problèmes par la suite, hein, pas sûr.
Le message est bien passé.
J'espère pas.
Merci à vous, Souad de Toulouse. Restez fidèles.
Bonne soirée, merci beaucoup.
Merci. Rayed Nadir, Rayed Chaibi, Nadir, Kaya. On va marquer une pause et alors je vous donne pleinement la parole. La Drancy est à vous. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
19h38, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Rayed Chaibi, qui est le président de la coopération France-Tunisie. Nadir Kaya, qui est le président de Banlieue Plus. Nadir Kaya, qui était sur place à Drancy. Merci d'être là, justement, parce que vous étiez sur place, vous avez vécu les coulisses. Je vais donner la parole à l'ancien élu de Drancy, habitant de Drancy. Je vous laisse la parole, Rayed Chaibi, je vous écoute. Zemmour, la déambulation de Zemmour. D'Éric Zemmour à Drancy.
Oui, c'est un sujet qui me touche tout autant que, comme vous l'avez rappelé, je suis un ancien élu de Drancy, j'y habite toujours, j'y travaille, et notre association est basée là-bas. Bah, je vais me positionner sur ce qu'a dit Madame le maire de Drancy, Aude Lagarde, quand elle a qualifié évidemment ce qui s'est passé hier de cirque médiatique qui n'avait vocation qu'à faire le buzz et enchaîner les fantasmes racistes. Je suis entièrement d'accord avec ça et je soutiens en tout point. Je voudrais faire deux remarques, à la fois sur la forme, et ensuite sur le fond. D'abord, allez-y. En préambule, on n'a pas à menacer Madame Boukris. Rachida Boukris. Je trouve que c'est absolument ridicule et elle n'a pas à subir. Et j'ai même envie de dire qu'elle est un petit peu quelque part la victime collatérale de cette affaire. Bon. D'abord, sur la forme, je disais, on voit que c'est un spectacle et pas un événement digne de ce qu'on peut appeler un événement en campagne électorale. Voilà, c'est plus un spectacle et qui d'ailleurs a servi à la fois les intérêts de l'un et de l'autre, c'est-à-dire d'Éric Zemmour et de Jean-Marc Morandini. Je pense qu'il y avait un intérêt commun, c'est-à-dire à la fois pour Jean-Marc Morandini de faire décoller son émission, qui était la première séquence, qui était la première édition qui s'est déroulée hier.
Oui.
Et puis à Éric Zemmour de vendre son livre et puis les idées nauséabondes qu'elle contient et puis justifier quelque part sur le terrain ces idées en prenant des exemples totalement fallacieux parce que je connais quand même bien mon territoire, hein, j'y suis né quand même.
Oui.
Il a fait une petite balade dans une portion de rue de la ville de Drancy. Il s'est arrêté à la première boucherie halal, bien sûr, et à converser avec les commerçants qui sont des commerçants tout à fait honnêtes et travailleurs et qui à l'évidence, ne sont pas.
Vous
armés.
Les connaissez, ce boucher, vous les connaissez,
sûr.
Tous ces gens-là.
Bien sûr,
ils sont
bien
de Drancy.
Mais
oui, ils avaient été prévenus.
Ils avaient été prévenus.
En tout cas.
Est-ce que vous avez le sentiment que ça a été orchestré, ces séquences?
Mais ça sent l'orchestre. Justement, quand je vais dérouler, vous allez voir que pour moi, c'est tout à fait orchestré. Quand on va dans cette première boucherie en disant, bah, voyez, voilà, hein, c'est le symbole de ce que je dis, boucherie halal, sachant qu'il y a une boucherie traditionnelle à même pas 50 ou 100, 150 mètres de là où a vécu d'ailleurs Éric Zemmour, hein, parce que ça fait 53 ans qu'il est parti de Drancy. Donc revenir 53 ans après et démontrer ou essayer de montrer Drancy comme étant une zone de non-droit islamisée, moi ça me révolte et ça me choque parce que ce n'est pas la ville où je suis né, ce n'est pas la ville où j'ai grandi, ce n'est pas la ville où je travaille.
Vous êtes en colère ce soir.
Mais bien évidemment.
Oui.
Donc il y avait un intérêt commun, je le disais. Ensuite, pourquoi c'était orchestré, ça permettra de répondre à votre question, parce que quand on a été obligé, en l'occurrence Madame Boukriz, de faire déplacer une femme à 40 km de chez elle pour, comme par hasard, tomber nez à nez avec Éric Zemmour, moi j'aurais préféré, s'il y avait eu un peu d'honnêteté, et si on voulait vraiment que ce soit des discussions face à la rue, notamment. Moi j'aurais aimé qu'on confronte Éric Zemmour avec des acteurs de terrain qui savent, eux, ce que d'être face à la rue, dans la réalité. Dans la réalité.
Qu'est-ce que vous auriez souhaité, par exemple? Dites-nous, Rayet Chaibi, vous auriez aimé quoi,
J'aurais aimé qu'il soit confronté à Idriss, ouais. Larbi, Jamel, Kassa, Nadine, Mohamed, Samira, Yassine, Nabil ou bien Dalila. Les prénoms que je viens de vous citer, ce n'est pas des prénoms qui me sont sortis de la tête. Ce sont des prénoms d'élus, d'acteurs engagés, associatifs, d'entrepreneurs, de personnes qui font en sorte que la ville de Drancy est une ville où il y a un tissu social et une cohésion sociale digne de ce nom. Ce sont des acteurs qui s'engagent tous les jours à travers l'éducation, le sport, la solidarité ou l'insertion professionnelle pour faire vivre, je dirais, promouvoir
donc le vivre ensemble. Donc avec cette déambulation face à la rue,
ces femmes et
Éric
ces hommes,
Zemmour,
ces femmes
vous
et ces hommes que
ça
je viens
a sali
de,
votre ville.
Ces femmes et ces
ça
hommes,
a entaché la ville.
Entre autres, mais ces femmes et ces hommes que je viens de citer ne sont pas le symbole du grand remplacement, comme il peut dire, mais ils sont le symbole du grand engagement. Ils sont engagés, ils sont français et ils ne sont pas à l'image de ce que cette personne essaye de renvoyer. Ils sont la France, ils sont la République, parce que leur engagement porte les valeurs de notre pays. Ça, c'est une chose. Ensuite, c'était l'impact sur le fond, mais je voudrais quand même vraiment que je n'ai pas de mots assez forts pour qualifier ce qui est en train de se passer. On est en train de parler d'une personne, potentiel candidat, futur candidat, qui se permet de réhabiliter Pétain, de comparer un ministre de la République, en l'occurrence Jean-Michel Blanquer, au docteur Mengele, le médecin nazi qui faisait des expériences abominables sur les enfants. On est en train de parler d'une personne qui juge, critique ceux qui sont morts sous la barbarie de Mohamed Merah en disant mais ils sont partis se faire enterrer en Israël notamment, donc ils resteront étrangers, ils n'appartiennent pas à la France. Voilà, on est en train de parler d'une personne qui est en train de fouler aux pieds les principes mêmes de notre République, le principe même de ce qui fait notre cohésion. On parle de cette personne-là. Donc le message que je voudrais dire, de nous mobiliser. Si cette personne se présente aux élections,
c'est son coup de gueule en direction des quartiers populaires.
Il n'y a que le bulletin de vote qui peut, contrecarrer les plans de cette personne qui est uniquement une personne qui prône la haine. Je ne l'entends même pas sur les questions éducatives. Je ne l'entends pas sur les questions économiques. Je ne l'entends pas sur les questions culturelles. Je ne l'entends pas sur l'insertion professionnelle. Tout tourne autour des musulmans et de l'immigration. Absolument tout. Donc, la conclusion.
Donc, ce soir, vous êtes aux informés.
Tout à fait.
Je vous ai rarement vu comme ça, mais extrêmement en colère.
Et la conclusion de tout ça, avant de passer la parole à Nadir, c'est que, premièrement, la ville de Drancy, et je défends mon territoire, et le département de la Seine-Saint-Denis, certes, concentre des difficultés.
C'est pour ça que je tenais à vous soyez là ce soir.
Je vous remercie. Elle a aussi
énormément de richesses. La ville de Drancy est une ville où il fait bon vivre, où nous avons des acteurs qui contribuent à enrichir le tissu social. Et surtout, ce que je voudrais dire également, c'est que nous avons en face de nous une personnalité qui est extrêmement dangereuse et que nous devons combattre, alors, et dans les urnes et sur le terrain avec les acteurs locaux.
Raïd Chaïbi, en colère, justement, habitant de Drancy, ancien élu de Drancy, d'ailleurs il vous applaudit. Autre personnalité, c'est Nadir Kaya, président de Banlieue Plus. Vous habitez pas Drancy, mais vous y étiez, vous avez vécu les coulisses. Racontez-nous. Alors, vous avez interpellé Jean-Marc Morandini, vous avez interpellé Éric Zemmour, vous avez parlé et échangé avec les habitants. Racontez-nous, s'il vous plaît, dites-nous.
Alors, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, parce que c'est un élu, c'est un Français qui est engagé depuis des années, donc il connaît, et il est aussi en colère, comme je le suis depuis 30 ou 40 ans. Tant à cause de ce qui se passe d'un point de vue des politiques vis-à-vis des inégalités, des discriminations qui existent dans les quartiers, mais aussi, comme je disais en préambule tout à l'heure, par l'incapacité des quartiers populaires à comprendre qu'il faut absolument s'engager. Zemmour, c'est la énième provocation. Donc là, on rappelle que, quelque part, les gens sont vacciné malheureusement face à cette violence. On a l'impression
mais
que les gens sont vaccinés.
Pourquoi vous êtes allé, vous, président de Banlieue Plus, à Drancy?
Alors Adil, moi je te dis, je préfère te tutoyer, on se connaît un petit peu.
Oui, très bien, allez-y.
Moi, je ne suis pas politisé, je n'appartiens à aucun réseau particulier. Pour faire du média, malheureusement, il faut être intronisé, il faut être aidé. Moi, j'ai toujours été à frapper en bas des immeubles de ces grands médias qui nous refusent l'accès ou qui nous donnent très très peu la parole pour parler de sujets qui nous concernent et des sujets qui traitent eux régulièrement depuis 20 ans, notamment des sujets sur la question des banlieues, l'islam et tout ce qui va avec. On est très peu invités, on parle beaucoup de nous mais sans nous. Donc comme souvent, je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion d'attraper Monsieur Zemmour, parce que lui, le premier depuis 20 ans, a toujours le même discours.
Vous l'avez attrapé? Vous l'avez saisi?
Alors,
vous l'avez...
Je l'ai regardé, il m'a vu.
Vous êtes salué?
Oui, je l'ai salué comme ça. Mais moi, j'ai attrapé déjà Morandini et son équipe avant qu'il arrive.
Quel échange vous avez eu avec
Je lui ai dit, donc je me suis présenté. Bonjour, monsieur Morandini. Il serait bien de vous donner la parole. Oui, il me connaît, mais bon.
Vous êtes déjà invité sur son plateau?
Ouais, mais apparemment, depuis l'affaire Philippot, quand j'ai été insulté ou traité d'islamiste, je ne suis plus de la bienvenue chez lui.
Ouais.
Mais c'est pas grave. Je me suis dit, c'était l'occasion peut-être, face à ce type d'émission qui présentait comme nouvelle, d'interpeller concrètement une personne qui va pas dans la rue, qui ne connaît pas les gens, notamment des quartiers populaires. Donc je me suis dit, je vais l'interpeller pour deux choses. La première, lui rappeler que c'est un menteur, parce que quand il dit qu'il y a plus de juifs dans le 93, c'est méconnaître le 93 et c'est insulter la population qui vit dans le 93. Ça, c'est un mensonge qu'il véhicule depuis 10-15 ans dans les médias en disant qu'il n'y a plus de juifs, notamment d'élèves dans les écoles de la République. C'est totalement faux. Malheureusement, il n'y a pas de contradiction, donc on le laisse dire et un mensonge répété plusieurs fois ou pendant des années devient vérité absolue. Deuxième chose, quand il dit dans les quartiers de Saint-Denis, la ville de Saint-Denis, il y a la charia qui est imposée, là aussi, je voulais l'interpeller, lui demander de me donner le nom du quartier et si possible, d'y aller ensemble pour vérifier ça. La troisième chose que je voulais faire, c'était, comme vient de le dire mon camarade, c'était lui présenter ce qui se passe en banlieue. Il vient de le faire, c'est-à-dire tout ce qu'il refuse de voir, c'est-à-dire ce que nous on peut faire, notamment au sein de notre association Banlieue Plus et nos quartiers, comme d'autres associations depuis toujours dans les quartiers, parce que la France est un pays quand même généreux. Les Français sont généreux. Et dans les banlieues, on l'est encore plus, malgré les conditions de vie dans laquelle on vit depuis des années. Donc je voulais lui parler des maraudes, je voulais lui parler des ateliers d'écriture, je voulais lui parler de l'aspect culturel, artistique, sportif.
Et pourquoi il n'a pas entendu tout ça alors, Nadir?
Parce que Monsieur Morandini, deux, trois fois, j'ai élevé la voix pour l'interpeller,
donc
il a refusé.
Vous savez qu'on vous a vu?
J'ai levé la voix quand j'ai vu le manège.
Vous dites, qu'est-ce qu'il faisait, Nadir Kaya?
J'ai vu le manège des personnes qui venaient de je ne sais où, accompagnées par sûrement quelqu'un de la production. Ils introduisaient un invité qui venait de nulle part. Et quand j'ai vu le truc, j'ai dit, mais ces gens-là, on a l'habitude de le voir. Le commissaire, on a l'habitude de le voir. Le responsable de la France Insoumise, on a l'habitude de le voir. En fin de compte, il a invité que des gens, même le jeune ancien délinquant qui sort de je ne sais où, mais qu'il a invité plusieurs fois dans son émission. Il a invité à 90% des gens qui ont déjà l'habitude d'aller dans les médias. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et les trois personnes qui sont passées, l'élu plus les deux jeunes, ce sont des personnes qui sont venues spontanément pour prendre la parole. Donc concrètement, son émission était biaisée. Bien évidemment, quand on va sur le terrain, il faut préparer une émission. Ouais. Ça se prépare. Donc moi, quand je vois Rachida Boukris. Oui. Je la vois de loin, j'entends pas tout parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent. Il commence à avoir des insultes au bout d'une heure. Il commence à avoir des gens qui se mettent autour de Monsieur Morandini et Zemmour. Il commence à avoir des noms d'oiseaux qui arrivent. Il y a même des femmes. Une femme qui s'est présentée comme une Italienne, qui l'a insultée, qui lui a dit qu'elle était la honte du 93 et de Drancy pour revenir ici et pour faire en sorte de stigmatiser les gens. Voilà. Donc plus on avançait, plus c'était tendu. Et donc quand je vois la femme comme ça, parce que je la vois en avance, je me dis tiens c'est bizarre, avec qui il va parler. Donc je la vois, elle arrive en bas de l'immeuble, elle est là, donc elle est sortie de nulle part. Bon, j'essaie d'écouter, mais c'est très difficile. Et je vois au bout de quelques secondes, elle commence à retirer son voile. Et donc je vois ça, j'élève la voix et je dis mais madame, vous n'êtes pas obligée de retirer votre voile pour argumenter face à Monsieur Zemmour. Donc Morandini se retourne, la caméra se retourne, je sais pas.
On vous voit.
On me voit, mais il retourne la caméra dans le sens de la dame. Mmh. Bon, ils ont fait leur show, la dame s'est exprimée. Moi, je lui en veux pas du tout, parce que déjà, faut savoir parler devant les médias, c'est un exercice extrêmement difficile, même si vous êtes soi-disant préparé ou invité pour. C'est un exercice difficile. Mais bon, vu les conditions aujourd'hui où on oppose les Français les uns les autres, on l'a vu, quel que soit votre propos, votre proposition ou votre argument devant un média, vous aurez affaire à d'extrêmes de tous bords. Donc, le propos de la dame se finit. Les gens l'a eu parce que elle a tenu ça. Donc les gens commencent à la huer. Non, c'est pas normal. Ou bon, Morandini se dirige vers la boucherie. Donc je vois boucherie, je regarde Halal. Je fais attends, c'est du cinéma. Le voile, boucherie. Je dis Monsieur Morandini, il vous manque quoi? Le délinquant, le troisième intervenant pour alimenter le cliché de façon générale. Et puis la dame se dirige vers moi et puis parce qu'elle m'a entendu interpeller Morandini et puis elle me dit non mais bon, j'ai enlevé le voile parce que je voulais vraiment lui faire comprendre que j'étais une femme libre de mes actes et mes propos.
Elle vous a dit ça.
Elle me dit ça à côté. Je lui dis mais écoutez madame, vous faites ce que vous voulez, mais l'image était quand même fort. C'est dommage. Je dis mais vous avez raison, vous faites ce que vous voulez. Donc après bon voilà, on a continué à cheminer et puis bon, il a pris les invités qu'il avait prévus.
Est-ce que vous avez un message à lancer ce soir?
Non, le message il est toujours le même.
Malheureusement, on arrive.
Il est toujours le même. J'incite les Français de tous bords, de banlieue ou pas, à ne pas tomber dans le message des extrêmes et à s'impliquer au quotidien pour changer la France, parce que ce ne sera pas ou ce ne seront pas les politiques qui le feront pour les Français. Il ne faut rien attendre des politiques. Il faut s'en servir. Mais c'est à nous de proposer des solutions aux problèmes de la société française.
Merci à Nadir Kaïa, président de Bon. Le plus, c'était très intéressant ce qu'on venait de dire, effectivement. Très fort message de la part de Rayad Chaibi, président de l'association Rayad, de l'association franco-tunisienne. Bilal Nadman, c'est le rendez-vous qui vous attend de 20h à 21h avec Time Sport. On remet ça, merci, hein. Vous avez très très nombreux, merci, vous appelez au 01 53 48 3000 partout en France. On remet ça demain, on ne lâche rien. Merci à la réalisation Yanis. À demain avec autant de plaisir. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.